CFM, le mag, tous les jours, 12h, 12h30.
La Société des Amis du Vieux Saint-Antonin organise ce jeudi à 18h, à la salle de réunion de Saint-Antonin, c'est la salle du conseil, un débat, une discussion, une réunion d'information sur la continuité de l'eau, on va dire, ou le maintien de ceux qui l'empêchent de continuer, ou ceux qui réalisent des plans d'eau miroir. Enfin, vous voyez que le débat, en termes simplement esthétiques, va être fort, en termes écologiques, puisque tout ça, c'est une loi européenne qui dit que les poissons, il faut qu'ils puissent retourner là où leurs ancêtres étaient partis. Et du coup, on s'est aperçu que ça fait quand même plusieurs siècles qu'on empêche parce qu'on a utilisé l'énergie motrice de l'eau pour moudre en général. La Société des Amis du Vieux Saint-Antonin, fondée en 1943, continue à être active, elle ouvre des chemins, elle ouvre des débats, elle publie, elle édite, elle fait se rencontrer des sachants, et là, c'est un débat citoyen pour que vous ne puissiez pas dire, vous n'étiez pas au courant, après tout. Pour en parler, c'est Dominique Percher, qui est dans nos studios, bonjour.
Bonjour.
C'est quelque chose qui vous a passionné, cette discussion, ou agacé?
Les deux à la fois, parce que il y a effectivement des éléments scientifiques dans le débat, et derrière il y a d'autres aspects, notamment sur l'urbanisme de Saint-Antonin. Donc il y a vraiment des débats qui... Il faut rendre hommage à la mairie, d'une part, qui a accepté que ce débat ait lieu, que il faut aussi dire merci aux personnes qui vont venir, notamment là, monsieur Olivier Boyer, qui est le responsable du service de l'eau à Montauban, l'architecte des bâtiments de France, monsieur Gisclard, et puis un géographe qui est spécialiste des moulins et spécialiste de l'Aveyron, Jean-Pierre Azéma. Il faut rendre hommage à ces personnes qui ont accepté de venir débattre, parce que c'était pas évident. On aurait pu très bien décider en petit comité de faire ou de ne pas faire, de modifier ou de préserver. Donc là, on sait que la société maintenant réclame des débats. On veut pas qu'on décide à notre place. Et là, on est en plein dans cette logique de démocratie participative.
Alors en plus, vous avez une actualité, j'allais dire malheureuse, c'est que le mur de soutènement de la place des Moines a un peu changé l'aspect souvenir magnifique de photos, je te prends au téléobjectif, tu restes sur les marches, c'est très joli. Là, bon, c'est sur fond de bâche. Mais pour le coup, on a appris des choses sur le sous-sol.
Oui, paradoxalement, on peut dire que la place des Moines, c'est un haut lieu de Saint-Antonin, parce qu'en fait, à Saint-Antonin, il y a deux lieux qui sont très chargés de symboles. Il y a la place de la Halle avec la maison romane. C'est le lieu du pouvoir, c'était le lieu des consuls et des marchands. Donc ça reste toujours l'élément central sur le plan économique. Et la place des Moines, elle recouvre dans son sous-sol les vestiges de l'abbaye et du cimetière des Moines. Donc les questions qu'on fasse des fouilles archéologiques complètes, puisque ça n'a jamais été terminé. Les fouilles ont été esquissées, commencées, mais jamais terminées.
Parce qu'il n'y a pas eu un chantier archéologique. C'est chaque fois au prétexte de construire ou de détruire quelque chose qu'on a gratouillé un peu autour.
Il me semble qu'en 1957, il y a eu une fouille qui a montré qu'il y avait beaucoup de choses, mais on n'a jamais été au dernier niveau. On s'est arrêté au niveau médiéval, ce qui fait que quand on se pose la question de la présence des Romains, par exemple, on n'en sait rien. On sait qu'il y avait un nom romain, il y avait même un nom gaulois pour Saint-Antonin, d'ailleurs, qui était Condat, c'était le confluent, donc ça dit déjà beaucoup sur l'eau. Nobilis Walis pour les Romains, puis après, c'est les moines. Donc là, on ne sait pas, mais au-delà de cet aspect de l'histoire, là, je dis que c'est un haut lieu parce que c'est là où la ville médiévale vient au bord de l'eau. Donc c'est pour ça que tout le monde vient à cet endroit admirer l'Aveyron. On voit bien les causes, c'est un lieu de loisirs, c'est un lieu de promenade. C'était le lieu choisi pour implanter l'établissement thermal qui a été détruit par la crue millénaire de 1930. Donc c'est vraiment un lieu important, et on comprend que les Saint-Antoninois, d'une part, mais aussi beaucoup de gens à l'extérieur, s'alarment, veulent savoir qu'est-ce qui va se passer sur la place des Moines, en liaison avec l'Aveyron qui est au pied.
Alors, Saint-Antonin et l'eau, une histoire d'amour, un lien intime avec l'eau, effectivement, la ville qui s'organise au confluent de la Bonnette et de l'Aveyron. Au départ, il y a un guet, hein, c'est vraisemblablement le meilleur endroit pour traverser. Alors, quand on regarde une carte géographique, on s'aperçoit que traverser l'Aveyron, c'est pas n'importe où et c'est pas n'importe quel endroit, donc qu'une ville se soit plantée là. qu'elle ait construit un pont avec un péage, en plus, c'était complètement pertinent à l'époque, puisque les lieux de passage étaient des moyens de financement. Et d'ailleurs, la pile du pont la plus solide hébergeait déjà une porte.
Oui, il y avait une espèce, un peu comme le pont Valentrée à Cahors, ça pouvait ressembler un peu à ça. Il y avait vraisemblablement une fortification qu'on voit, alors on ne le sait pas bien, mais on la devine à travers quelques gravures anciennes. Bon, le tableau qui représente l'arrivée de Saint-Antonin,
c'est auréolé,
voilà, lui est complètement folklorique, mais il est inspiré du pont de Cahors, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que le pont jouait un grand rôle. Il a joué un grand rôle de la richesse de Saint-Antonin. Et il faut aussi rappeler que Saint-Antonin, par le confluent de la Bonnette et de l'Aveyron, on est au carrefour de trois pays, hein, le Quercy, le Rouergue et l'Albigeois. Et la force de Saint-Antonin, c'était que on était dans un lieu de rencontre, un lieu de marché, et c'était plus intéressant d'être là pour capter les flux de négoces. Il y avait des Allemands qui venaient jusqu'ici pour acheter des draps et acheter du safran qui était produit dans la région. Donc cette position géostratégique était extraordinaire. Donc trois pays qui se rencontrent, un pont, on comprend que les moines, ils étaient bien placés pour...
Et en même temps, c'était un port. Hein, c'est un port d'exportation, de départ jusqu'à Bordeaux, effectivement, tout le tissage.
Oui, alors... Cécile Rival, ce qui a soutenu sa thèse sur Saint-Antonin à l'époque médiévale, qui pour nous c'est un trésor au point de vue connaissance, dit le port de toute façon était certainement modeste, ça devait être un appontement pour des barges, des barques à fond plat. On ne sait pas très bien où il est, où il était, donc il devait être en amont du pont actuel. Bon, on n'a pas de traces parce que ça devait être des équipements très légers, ça devait être faut pas imaginer un quai en dur et des choses comme ça.
Non, on peut imaginer des charrettes qui viennent charger et puis tout ça part au fil de l'eau.
En fait, l'Aveyron, il a été vraiment flottable et navigable à partir de Bruniquel, puisqu'il y a eu des aménagements qui ont été faits, notamment pour évacuer les produits de la grésigne. Mais jusque-là, c'était certainement pas le cœur de la richesse de Saint-Antonin, la fonction portuaire.
Une marche à regarder le temps, observer le monde en marche et à mater les gens. Elle s'assoit sur une marche, trop fatiguée à présent, pour prendre le train en marche et sortir du néant. Elle s'assoit sur cette marche, mais à part ça tout va bien. Et à part ça tout va bien, mais à part ça tout va bien. Le monde marche vite, trop vite, il est déjà loin. Traverse la ville, les deux mains dans les poches. Il marche en sanglots pour vider sa caboche. Il traverse la ville en remontant le flot des gens qui tracent et ne lui disent mot, et ne lui disent rien. Mais à part ça, tout va bien. Et à part ça, tout va bien. Mais à part ça, tout va bien. Le monde marche. Mais à part ça tout va bien. Et à part ça tout va bien. Mais à part ça tout va bien. Le monde marche vite, trop vite, il est déjà loin. Il arrête sa course à deux pas des marches. Elle est restée assise, figée de glace. Ils sont deux à présent, bien avant les autres, à marquer le pas et à donner la note. Mais à part ça, tout va bien. Et à part ça, tout va bien. Mais à part ça, tout va bien. Le monde marche vite, trop vite. Mais à part ça, tout va bien. Et à part ça, tout va bien. Mais à part ça, tout va bien. Le monde marche. Mais à part ça, tout va bien.
Le Mag. Tous les jours, 12h, 12h30.
Alors, cette grande question qui va être débattue ce soir, c'est est-ce qu'il faut casser quelque chose ?
Alors, nous sommes devant une injonction, ce qu'on appelle une injonction contradictoire, c'est-à-dire on nous demande tout et son contraire. Alors, d'un côté, il y a une directive européenne sur la qualité de l'eau, donc qui ne dit pas spécialement ce qu'il faut faire. Elle donne des objectifs en matière de qualité de l'eau et en donnant aux pays, aux nations, un certain délai pour arriver à cet objectif. En France, on a choisi donc de mettre dans la LEMA, donc la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, on a mis l'accent sur la continuité hydrologique, c'est-à-dire que l'eau doit couler, les poissons doivent pouvoir circuler et les sédiments doivent pouvoir être évacués. Donc, en gros, l'ennemi, c'est tout ce qui fait obstacle. Donc, les chaussées, pour employer le mot local, les chaussées sont effectivement dans le collimateur, si je puis dire, puisqu'elles freinent la circulation de l'eau. En face, l'autre injonction, c'est les chaussées et les moulins qui sont sur les côtés, de chaque côté des chaussées sont du patrimoine historique. Ils ont tous quasiment une origine médiévale. Ils ont une longue histoire. Ils ont été à l'origine de la richesse de tout ce territoire. Je parle même plus de Saint-Antonin. De la Guipi au confluent avec le Tarn, il y a 25 chaussées qui sont installées sur l'Aveyron. Et puis, en remontant la Bonnette en direction de Quélus et Livron, on a des choses extraordinaires que les gens connaissent mal. On a des escaliers de moulins, notamment du côté de Livron et de Quélus, où on a des moulins les uns en dessous des autres. Et ça, c'est un patrimoine qui mérite d'être valorisé. Alors, une bonne partie de ces moulins sont privés, mais il y a vraiment des systèmes hydrauliques qui ont une originalité extraordinaire.
Et j'avais lu à ce propos que dans cette descente à Saint-Pierre-de-Livron, c'était la plus forte concentration sur une si petite longueur d'Europe.
Oui, c'est il y a une étude qui a été faite par le CAUE qui montre cette richesse et c'est vrai que la commune de Quélus à un moment donné s'était posé la question de savoir comment valoriser ce patrimoine. Donc avant de valoriser le patrimoine, enfin, ça serait illogique de le détruire. Enfin, de toute façon, les chaussées là, à ce niveau-là, les poissons ne remontent plus. Hein. D'ailleurs, l'ONEMA nous dit bien qu'au bout de 4 escaliers échelle à poissons, en général, les poissons sont fatigués. Et les pêcheurs, à l'inverse, nous disent que les bons poissons sont capables de sauter 2 mètres de haut et que c'est pas les petites chaussées d'un mètre de haut qui sont à Roumégous ou le long de l'Aveyron, ces chaussées sont très basses, hein. Elles sont c'est des obstacles très très modestes. Les chaussées, c'est pas les barrages d'EDF. Hein. Et d'ailleurs, dans cette injonction contradictoire, moi j'ai posé la question de savoir qu'est-ce que vous allez faire à Albi du grand barrage qui se trouve en dessous le palais de la Berbie, qui forme un plan d'eau magnifique. Est-ce que celui-là, vous allez aussi demander à l'échancrer pour faire couler à nouveau la rivière? On sent bien que les petites chaussées, c'est plus facile de demander leur effacement que de s'attaquer à des monuments historiques qui font partie d'identité d'une ville. Hein,
leur effacement ou une solution pour résoudre ce problème de continuité? Parce que on sait que les passes à poissons, on sait le faire. En même temps, on sait que ça coûte la peau des fesses. Oui. Si vous permettez. Or, souvent, ces chaussées sont
privées. Celles qui avaient déjà été faites, on nous dit elles sont mal faites.
Ah oui, en plus.
Notamment le barrage du gravier, dire, ah oui, il faudrait les refaire. Alors effectivement, ça coûte très cher.
Pardon, ça pose des tas de questions quand même, parce que quand on dit c'est un élément du patrimoine, effectivement, c'était le moyen qu'on avait pour utiliser la force motrice de l'eau pour faire de la farine, la plupart du temps. Or, aujourd'hui, on aurait la pertinence d'utiliser la force motrice de l'eau. On le sait, il y a des hydroliennes faciles à installer, ça pourrait produire de l'électricité. Et alors là, on clouerait le bec complètement avec un autre texte sur la transition écologique en disant ben, qu'est-ce que vous voulez nous embêter à la continuité de l'eau alors que c'est utile.
Mais vous touchez du doigt effectivement cet aspect, je ne vais pas dire incohérent, mais on est dans le choc des idées. L'ONEMA, donc l'ONEMA c'est l'Office National de l'eau et des milieux aquatiques, donc c'est en gros les anciennes agences de l'eau. L'ONEMA reconnaît que les chaussées doivent être protégées, quand elles ont un intérêt pour la production d'énergie, quand elles sont utilisées déjà pour protection de l'énergie, donc production, on va pas les toucher. Et elle reconnaît aussi que quand elles sont monuments historiques, quand elles font partie de l'histoire, elles ont donc une, elles doivent être aussi protégées. Et enfin, quand elles ont un intérêt économique, elles doivent être protégées. Donc pour nous, l'intérêt économique à Saint-Antonin, c'est évident. C'est la, toute l'activité touristique de loisirs, canoë et kayak. Une des solutions, échancrer le barrage de Roumégou, c'est-à-dire sur 20 mètres, faire un creux pour que l'eau coule plus vite. Ça veut dire que l'Aveyron, donc à, au pied de la place des Moines, va redevenir beaucoup plus torrentueux. Il y aura beaucoup moins d'eau. Il y aura des berges beaucoup plus grandes.
Et plus l'effet miroir.
Et il y aura plus l'effet miroir qui tient tant, qui tient tant à l'architecte des bâtiments de France. L'architecte des bâtiments de France dit le plan d'eau. Et le miroir d'eau, pour moi, ça fait partie de l'identité historique de Saint-Antonin. Les trois solutions de, par rapport aux chaussées, elles sont relativement simples. C'est soit on démolit tout, donc mais avant, il faut qu'on fasse une fouille archéologique parce que c'est comme un objet ancien, donc il faut quand même faire un diagnostic d'archéologie préventive. Soit on abaisse, donc alors sur la totalité ou sur un creux, alors la chaussée de Roumégousse, elle doit faire 60 cm de haut. Donc
et immédiatement, la question, c'est qui paye?
C'est la collectivité locale.
Hein. Voilà.
Et puis la troisième solution serait de dire éventuellement on la maintient, mais il faut qu'on fasse une passe à poissons. Là aussi, qui paye? Et donc là encore, c'est les collectivités locales. Donc, qui sont mises à contribution.
Il y a la quatrième solution, c'est on touche à rien, on change rien. Voilà. On en a discuté, c'était très intéressant, et les générations futures auront encore la possibilité d'en discuter, après tout.
Oui, parce que la solution, effectivement, la plus économique, c'est de dire on ne touche à rien, parce qu'on se rend compte que des obstacles de 60 cm ou d'un mètre de haut n'empêchent pas les poissons de circuler et n'empêchent pas les sédiments de partir dans les crues, comme celle qu'il y a eu il y a quelques jours, hein, donc les sédiments circulent. On peut effectivement très bien adopter ce point de vue. C'est évidemment, moi, c'est celui que je propose. S'il y a de l'argent à dépenser, autant le faire ailleurs. Mais c'est un vrai débat. Beaucoup de propriétaires de moulins ont été mis en demeure de faire des aménagements. Et donc, ce qui explique qu'il y a eu une forte remontée de la part des sénateurs et des députés auprès des ministères. Pour dire on peut pas assumer les dépenses que vous nous imposez, et tout d'un coup le ministère de la Culture s'est réveillé en disant mais au fait, dans cette histoire de l'eau, on ne nous a jamais associé au débat, or les moulins justement et les chaussées sont des éléments de patrimoine. Et maintenant, donc la précédente ministre de la Culture a demandé à être associé au débat sur l'eau qui était menée par le ministère de l'Environnement. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout d'un coup, le Sénat vient de décider, dans un projet, dans la loi en discussion, qui est en navette, a décidé, article 33 modifié, je me souviens plus exactement du texte, mais les chaussées et les barrages sont des éléments de patrimoine protégé.
Ce soir, cette réunion d'information, on va pouvoir entendre tous les enjeux, tous les points de vue, les spécialistes qui s'expriment ont des regards, je veux dire, des points de vue de plusieurs endroits par rapport au problème. Ils vont se compléter.
J'avais mis un point d'interrogation parce que je pense que finalement les points de vue devraient se rejoindre. Peut-être se rejoindre sur la solution la plus simple, c'est que ces chaussées ne sont pas vraiment des barrages au sens cette fois-ci technique, et qu'on pourrait très bien effectivement ne rien faire, très bien ne pas y toucher, d'autant que vous savez que le pays Midi-Quercy veut être un territoire à énergie positive. Donc moi je fais partie du conseil de développement territorial du pays Midi-Quercy, et nous avons le souhait d'ouvrir des chantiers justement sur les hydroliennes. Et on pourrait très bien installer une hydrolienne juste après la pile du pont de Saint-Antonin. C'est l'endroit où elle pourrait se mettre. Mais pour cela, il faut encore maintenir effectivement un système hydraulique qui permette de produire de l'énergie. Donc il est peut-être urgent de ne rien faire. Et c'est donc peut-être comme ça que va se... L'ONEMA en tant que tel met déjà des exceptions. Hein. On parle de côté historique, on parle de patrimoine, on parle d'économie. On est en plein dans ces exceptions-là et c'est peut-être comme ça qu'il faut aussi arriver à faire la synthèse. Mais ça, derrière, il y a un autre débat, c'est celui de la place des moines. Parce que la place des moines, donc il y a eu cet effondrement qui tout d'un coup, effectivement, a reposé la question de comment refait-on la place des moines. Alors, la place des moines, sur ce que moi j'appelle le plateau, la surface, elle est complètement à refaire, c'est sûr qu'elle est. Elle est même indigne de Saint-Antonin. Il y a des parties en béton craquelées. Il y a une espèce de fontaine avec quatre fontaines de cour qui sont indignes d'une ville qui se voulait une ville thermale. Donc tous ces équipements sont. On sait qu'il faut les refaire. Avant de les refaire, il faut avoir fait les fouilles. Et si on a fait les fouilles archéologiques et qu'on trouve des vestiges, il faudra se poser la question de comment on pourra découvrir ces vestiges. Une des idées, par exemple, c'est de faire une crypte archéologique avec peut-être une dalle en verre qui permet de voir le cimetière sans aller piétiner les tombes des moines. On va pas permettre d'aller se promener au milieu d'un cimetière médiéval, mais au moins on peut donner à voir. Puis l'autre problème qui était presque un peu le déclencheur de cette affaire, c'est le front de rivière qui s'est effondré. Comment on le restaure, et il y avait donc certaines personnes ont dit il y a qu'à faire un talus en herbe qui permettra de s'asseoir au milieu de l'herbe et puis de pouvoir admirer l'Aveyron. Et puis d'autres personnes, dont d'ailleurs vraisemblablement monsieur Gisclard l'ABF, dit cette place a été aménagée en 1912-15 comme un établissement thermal. Il y a la salle des fêtes qui était l'établissement de bain. Il y avait le cinéma, là où il y a le cinéma, c'était l'hôtel thermal. Il y a une architecture autour avec le grand escalier monumental qu'il faut maintenir, mais il faut aussi le restaurer. Et il y a toute une balustrade avec des colonnes en béton moulé qui sont typiques des années 10, des années 20. Et ces balustrades, alors il faut aussi la restaurer, mais elles forment un ensemble qui pourrait très bien être un... faire une place agréable à vivre, un peu comme les places où on serait, permettez la comparaison, on pourrait être comme au Butte-Chaumont à Paris, où on a des bancs, on a des chaises, on a un petit kiosque avec des boissons, on a un peu d'arbres, parce qu'il quand même en été il fait chaud, et puis on a la vue, on a un belvédère qui nous permet d'admirer l'Aveyron. Donc on a deux débats, deux positions qui sont là aussi un peu contradictoires, et... Alors, si l'Aveyron n'est plus un miroir d'eau, c'est évidemment le belvédère est moins intéressant, donc c'est moins cohérent. Mais si on peut garder le miroir d'eau, il faut garder aussi ce qui permet d'admirer le miroir d'eau. Donc c'est aussi le débat qui est derrière.
Ça va être très intéressant. Ça se passe demain, jeudi, à 18h, à la salle des congrès de Saint-Antonin-Nobleval, organisée par les amis du vieux Saint-Antonin.
Et un compte rendu sera mis en ligne. De même qu'il y a déjà en ligne sur le site des Amis du Saint-Antonin tout un dossier qui a été préparé avec tout ce qu'il faut savoir sur les chaussées, les moulins, les crues de l'Aveyron, les crues de la Bonnette, les positions de l'ONEMA, de l'État en matière de continuité hydrologique. On a préparé tout un dossier documentaire et on y ajoutera évidemment le compte-rendu de la réunion.
Ça s'appelle www.amisduvieuxsaintantonin.org pour retrouver tout ça. Si vous ne pouvez pas venir à 18h à la salle des congrès de Saint-Antonin, Dominique Percher, je vous remercie.
Merci.
Le mag du Kersirouergue, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même punition. Ciao, ciao. Passez une bonne après-midi à l'écoute des programmes de CFM.